La Bible et l'écologie. Voilà deux termes qui, a priori, ne font pas très bon ménage, parce que aujourd'hui, des auteurs très sérieux accusent même la tradition judéo-chrétienne d'être à l'origine du saccage organisé de notre planète à cause de ces quelques versets assez malencontreux que l'on rencontre dans le livre de la Genèse, où il est dit « Soumettez la terre, dominez-la. Je vous donne tout sous vos pieds, soumettez et dominez la terre. » Et certains pensent que ce rapport qui est mis justement à la nature dès le début de la Bible a conditionné en quelque sorte une sorte de relation, de soumission, de domination de la planète par l'homme qui n'était en rien un respect. Alors on pourrait dire que, cela dit, ceux qui ont voulu se centrer uniquement sur ces versets sont malhonnêtes. Il y a évidemment d'autres passages dans la Bible qui sont beaucoup plus respectueux que cela, et en particulier, peu de versets plus loin, quand il est dit que l'homme est chargé de cultiver et garder le jardin, celui qui cultive et garde n'est pas supposé le saccager. Mais personnellement, je tirerais du récit de la création un certain nombre de leçons qui me semblent justement bien mettre en perspective les rapports qu'il peut y avoir entre l'homme et la nature. Il est évident que ces récits de la création sont mythologiques, c'est-à-dire que Dieu n'a pas créé l'homme en 7 jours et qu'Adam et Ève n'ont certainement jamais existé comme personnages historiques. Mais néanmoins, je crois que ces récits-là nous montrent comment s'articulent les rapports entre Dieu, l'homme et la création en général. On peut en tirer donc plusieurs conséquences. La première, c'est que, premier message théologique donc des récits de la création, c'est que la nature est créée par Dieu. Bon, ça peut vous sembler assez sans importance, et pourtant c'est tout à fait considérable. Parce que si la nature est créée par Dieu, c'est qu'elle n'est pas mauvaise, et qu'elle est plutôt bonne. C'est-à-dire qu'il y a dans le christianisme une sorte d'acceptation de la nature, non pas comme une chose mauvaise et perverse, mais comme quelque chose de fondamentalement bon. Alors ça, aujourd'hui, ça n'est pas un gros problème, et ce n'est pas une tentation aujourd'hui que de penser le contraire. Ça l'a été au XIXe siècle, enfin jusqu'au XIXe siècle, où on avait peur de la nature, des animaux sauvages, où la nature était considérée comme quelque chose d'hostile, qu'il fallait justement dominer et réprimer même dans certains cas. Aujourd'hui, la tendance, elle est plutôt dans l'autre sens. Il y en a plutôt, en général, l'idée de considérer que tout ce qui est naturel est bon, ce qui n'est pas forcément beaucoup plus juste, mais enfin. Cela dit, cette affirmation qui nous dit que la nature est bonne et créée par Dieu a quand même quelque chose à nous dire aujourd'hui, parce que je crois que quand on parle du rapport de l'homme à la nature, il y a le rapport que nous avons par rapport au monde qui nous entoure, mais aussi le rapport que l'homme peut ou doit avoir avec sa propre part naturelle, c'est-à-dire sa dimension naturelle, biologique, animale en quelque sorte. Or là, la tentation demeure toujours, même si elle est peut-être moins forte qu'à une certaine époque, que l'homme méprise, je dirais, ses propres fonctions vitales. Et donc il y a toujours la tentation de mépriser le corps et ses fonctions, qu'elles soient dans la jeunesse ou dans l'âge avancé, et de nous rappeler que le monde est créé par Dieu, c'est nous rappeler que la nature est a priori bonne, que le corps n'est pas mauvais, n'est pas suspicieux, n'est pas quelque chose de satanique ou n'est pas de l'ordre de la tentation, mais que notre vie physique même, notre vie biologique, est quelque chose qui est bon. Alors ça, il faut le savoir pour, je dirais, lorsque la vie s'impose à nous, par exemple dans la jeunesse, je dirais l'amour, la dimension physique de notre existence n'est pas quelque chose de mauvais, de suspicieux ou s'opposant au projet créateur de Dieu, au contraire. Ou alors encore, quand notre dimension physique se fait aussi plus prégnante, comme par exemple dans l'âge avancé, il faut aussi considérer que notre vie en elle-même n'est pas si mauvaise que ça et qu'il faut l'accepter et l'aimer comme un don de Dieu. Alors l'erreur, c'est donc d'oublier que la nature fait partie de notre vie et de vivre, et donc nous sommes invités à vivre tout cela je dirais, la dimension corporelle et naturelle de notre vie avec reconnaissance. Mais deuxième leçon, donc si la nature est créée par Dieu, j'en déduirai autre chose, c'est que si la nature est créée par Dieu, alors la nature n'est pas Dieu. C'est-à-dire qu'elle n'est pas l'absolu. Elle n'est pas non plus ce qu'il y a de plus beau, de plus grand, de plus essentiel, de plus fondamental dans le monde. Il y a plus important que la nature. Et là, je crois que une écologie chrétienne nous invite à ne pas faire une idolâtrie de la nature. Certes, la nature est bonne, mais elle n'est pas ultimement bonne. Il y a probablement des choses plus importantes que cela, et il peut même y avoir, par exemple, des raisons extérieures ou des raisons fondamentales qui peuvent déterminer notre façon d'agir autrement que par des arguments purement naturels ou écologiques. C'est la même chose pour le rapport au corps. Certes, le corps est bon, d'accord, la vie physique n'est pas mauvaise, elle est importante, mais elle n'est pas ultime. C'est-à-dire qu'il y a quand même plus important que ça, et inversement, les misères qui arrivent à notre corps ou à notre vie physique sont embêtantes, graves, mais ne sont pas fondamentalement et ultimement graves, c'est-à-dire qu'il y a plus important que cela. Autrement dit, une écologie chrétienne doit sans doute respecter la nature, mais elle ne doit pas sacraliser la nature. On trouve un petit peu cela, je crois, dans un commandement très, très ambigu et intéressant dans la Bible, qui est le commandement du sabbat. Vous savez, le sabbat, c'est de dire qu'il faut travailler 6 jours et que le 7e jour, on ne travaille pas. Il y a également dans la Bible un commandement assez intéressant qui est celui de la jachère, c'est-à-dire que normalement, tous les 7 ans, il faut laisser la terre au repos. Alors vous voyez que la Bible elle-même n'est pas du tout anti-écologique, c'est au contraire, il y a une sorte de préoccupation du repos de la terre et de dire il faut que se préoccuper de la terre comme on se préoccuperait de quelqu'un. Alors ce commandement du sabbat et du repos tous les 7 jours ou tous les 7 ans me semble assez ambigu parce que d'un certain côté, je crois qu'il vise à relativiser le monde matériel. Si en effet le monde matériel était si important, pourquoi est-ce que Dieu se serait arrêté un jour de travailler dans ce monde? Le fait même que Dieu puisse ne pas créer un jour montre qu'il peut avoir plus important à faire que de créer. C'est-à-dire que donc la nature a une importance, mais pas plus de 6/7 d'importance en quelque sorte. Il y a toujours un 1/7 de quelque chose qui dépasse cette dimension naturelle et matérielle, et qui fait en sorte que là, il y a une bonne raison de ne rien faire, de ne pas labourer, de ne pas travailler, et de ne pas justement s'investir dans le monde matériel. Le jour du sabbat, le 7e jour, montre qu'il y a une dimension du spirituel, et qu'il faut parfois sacrifier le matériel pour le spirituel. Et donc voilà, c'est la même chose donc pour l'homme, et puis en même temps, donc s'il y a, comme je vous le disais, une sorte de remise à sa place du monde matériel en disant que ce n'est pas ultimement important, il y a en même temps dans ce commandement du sabbat une sorte de respect de la création comme de nous. C'est-à-dire que l'on dit qu'il faut que Dieu se repose et on dit aussi qu'il faut que l'homme se repose. Et donc il y a une prise en considération justement de la dimension de la vie physique et matérielle de l'homme. Autrement dit, il est bon que l'homme se repose matériellement. Il n'y a pas de culpabilité, je dirais, même à prendre des vacances. On ne dit pas d'ailleurs que le jour du sabbat, il faille forcément passer son temps à prier, simplement ne pas travailler. Et c'est la même chose pour la jachère. Il est important que de temps en temps, on laisse aussi la nature se reposer. Et donc il y a aussi une prise en considération de la dimension matérielle de la vie et du monde qui est tout à fait considérable. En tout cas, l'important pour ce deuxième point, c'est de ne pas identifier le monde matériel et l'activité matérielle avec le sacré et avec Dieu lui-même. Le troisième point que j'entends dans ce récit de la création, c'est que si on nous dit que la création est bonne, que le corps n'est pas mauvais, que la nature est bonne, etc., Néanmoins, moi j'ai un petit peu envie quand même de dire « oui, mais à ce moment-là, d'où vient le mal ?» On nous répète à loisir que la création est bonne, c'est très à la mode aujourd'hui. Mais à ce moment-là, d'où vient qu'il y a du mal ? D'où vient qu'il y a la souffrance ? Et d'où vient que parfois les choses ne marchent pas toujours aussi bien que ça ? On nous dit « tout ce qui est naturel est bon ». Mais vous n'avez qu'à manger une omelette d'amanite phalloïde et vous verrez que le naturel n'est pas forcément bon. Le naturel peut être mortel. Et même dans le déroulement de la nature, si la naissance d'un enfant est une merveille qui nous montre la grandeur de Dieu, il y a aussi, comme dans le récit de l'évangile de Jean, des aveugles nés, c'est-à-dire des naissances qui se passent mal. Et donc il y a parfois des erreurs dans la nature. Et en tout cas, il y a du mal dans le monde matériel. Et ça, il faut arriver à en rendre compte. Il faut trouver à quel endroit on peut glisser dans cette création merveilleuse la présence du mal. Comme je n'ai pas une tendance au dualisme, et je crois que la Bible non plus, je ne retiendrai pas la solution qui viserait à dire que le diable lui-même vient glisser du mal dans la création et que donc la création serait pervertie par une sorte de démon malfaisant. Mais je garderai comme solution celle des pères de l'Église, de la tradition grecque, qui disent « la création est bonne, mais elle n'est pas finie », c'est-à-dire qu'elle est en genèse. Autrement dit, il y a là une solution assez intéressante au problème du mal, c'est de dire, nous ne sommes pas en face d'un chef-d'œuvre ultime et terminé, que l'on pourrait juger sur pièce, mais nous sommes en face d'une ébauche. Et donc le monde est actuellement en création, il est en genèse, et nous voyons le monde dans un résultat intermédiaire, en quelque sorte, de l'œuvre créatrice. Par conséquent, le mal ne sont que des imperfections, je dirais, provisoires. Cela a une importance, parce que cela veut dire que la création est un bon début, mais qu'elle est à perfectionner. C'est-à-dire qu'il y a un travail à faire pour l'amener à son accomplissement. Et je crois qu'il ce serait une grave erreur que de garder l'ébauche comme un but ultime et de dire l'état des choses tel qu'il est aujourd'hui, il faut le conserver comme il est, parce que c'est comme ça que Dieu l'a voulu. Mais non, je crois que le but de la création est encore au-delà de là où nous en sommes et que donc il y a à faire. Par conséquent, nous devons aimer et respecter la nature, tout en disant que l'homme a une responsabilité là-dedans, un rôle à jouer pour continuer cette création et pour la perfectionner, en quelque sorte. Il est là, comme le dit le deuxième chapitre de la Genèse, pour cultiver et garder le jardin. Il n'est pas simplement là pour le garder, comme le ferait un gardien de musée ou un gardien de monument historique qui essaierait de laisser les choses en l'état, mais il est aussi appelé à le cultiver, c'est-à-dire à l'organiser et à le développer. Et donc on doit voir là-dedans que non seulement il n'y a pas à sacraliser la nature, mais on peut voir aussi dans la nature un champ d'action pour le perfectionner, un champ d'action pour faire quelque chose. C'est cela que dit Jésus justement à propos de l'aveugle-né. Quand les disciples lui disent « tu vois, il y a là un problème visiblement, parce que ce type-là, il est né aveugle, et donc il y a du mal dans la création. » Et Jésus dit, c'est pas qu'il y ait une raison fondamentale à ce mal, ce n'est pas que lui ou qui que ce soit ait péché, mais c'est afin que l'œuvre de Dieu soit révélée. Cela veut dire que c'est justement dans les lieux mêmes de l'imperfection de la nature, que doit arriver l'action de l'homme, et l'action de Dieu qui doit être là pour faire quelque chose et pour le perfectionner. Donc il n'y a pas, je crois, dans ce thème biblique de mythe du bon sauvage, il n'y a pas non plus de place pour un éventuel retour à la terre, mais plutôt pour une vision du développement de la culture par rapport à la nature, sans aller contre la nature, mais pour pour compléter cette création et pour l'accomplir. En ce sens, j'ai toujours été choqué par le slogan du Conseil œcuménique des Églises. Le Conseil œcuménique des Églises s'est préoccupé depuis déjà plusieurs décennies de la question écologique et a fait un programme qui est encore en vigueur aujourd'hui qui s'appelle « Justice, paix et sauvegarde de la création ». Et je trouve un peu choquant ce terme parce que je ne crois pas que l'homme soit appelé à sauvegarder la création. C'est-à-dire que c'est une erreur théologique. Il ne s'agit pas de sauvegarder la création, mais de la continuer, de la développer. L'homme n'est pas dans le monde comme un gardien de musée par rapport à la création, mais il est là comme un co-créateur pour amener la création vers quelque chose de meilleur, de plus grand et de plus beau. Et c'est pourquoi, en ce sens, que je crois, je dirais, dans l'importance de la recherche médicale, de la recherche scientifique, et aussi dans l'importance de la théologie là-dedans, parce que si nous devons amener la création et le monde quelque part, la question c'est de savoir dans quelle direction travailler et dans quelle direction aller. Et ça, c'est, je crois, l'importance de la théologie ou de la révélation qui propose une direction pour essayer de dire ce qui est le meilleur ou ce qui est le moins bien. Autrement dit, je serais favorable à une écologie dynamique dont le but ne serait pas de revenir au Moyen-Âge ni de conserver les choses comme elles le sont, mais d'arriver à un développement harmonieux et durable, comme on dit. Et pour cela, il faut effectivement se sentir acteur là-dedans. Autre leçon encore de ce récit de la création, c'est que l'homme fait partie de la nature. Je crois que là, c'est un oubli fondamental et une grave erreur de la pensée écologique d'aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, on fait une sorte de séparation entre la nature et l'homme, comme si l'homme n'était pas un élément naturel, alors que l'homme est un élément naturel. Je dirais comme les fleurs, comme les abeilles, comme les champs, comme les oiseaux, comme les singes, comme les dauphins, comme tout. L'homme est tout aussi naturel qu'un dauphin ou qu'une biche. C'est-à-dire que tous viennent de la nature. Et je crois qu'il faut se rappeler que l'homme est justement une créature et qu'il n'y a pas de distinction fondamentale entre le naturel et l'artificiel. Et même, d'ailleurs, on oppose, vous savez, on dit que le pétrole est quelque chose qui n'est pas naturel, mais le pétrole est tout à fait naturel, le charbon est tout à fait naturel, et même, je dirais, ce que l'homme produit à partir du pétrole, comme le plastique, bon ou mauvais, est quelque chose qui, fondamentalement, est naturel, qui vient de la nature et qui est transformé par un animal naturel. Et donc, on peut dire que le plastique n'est pas finalement de nature tout à fait différente du miel qui est fabriqué par les abeilles ou d'autres choses qui sont faites par un certain nombre d'animaux. Et donc, je crois qu'il faut éviter cette espèce de vision dualiste qui opposerait l'homme à la nature, et pour arriver à réintégrer l'homme dans la nature et à considérer que s'il y a un respect à avoir de la nature, ce n'est pas comme si l'homme se mettait au-dessus de toute chose, mais c'est parce que l'homme fait partie de la nature. Et c'est peut-être ce que nous découvrons aujourd'hui, en disant, mais attention, si on saccage la nature, c'est l'homme qui met sa propre vie en danger, parce qu'il est naturel. Mais peut-être aussi que, effectivement, cela nous apprend que l'homme, en menaçant la nature, se menace lui-même, et que la survie physique de l'homme passe par une écologie raisonnable. Et c'est là, je crois, la principale motivation de l'écologie chrétienne. Et puis enfin, l'homme, effectivement, ne possède pas la terre, mais il en est le gérant et le dépositaire. Cela, on le trouve aussi dans un certain nombre de passages de la Bible. Par exemple, dans le Lévitique, verset chapitre 25, quand Moïse dit, « Les terres ne se vendront pas à perpétuité, « car, dit Dieu, le pays est à moi, vous êtes chez moi comme des étrangers et comme des habitants. » Donc c'est vrai pour la nature. Nous devons respecter la nature, nous en sentir responsables. Et la nature n'est pas là pour que nous la consommions, mais elle est là pour qu'on en fasse quelque chose. C'est vrai aussi pour notre vie à nous. Nous ne possédons pas notre propre vie terrestre, elle nous est confiée, et nous ne pouvons pas dire « c'est mon corps, j'en fais ce que j'en veux, c'est ma vie, etc. » Nous ne sommes que les gérants provisoires d'un bien qui nous a été confié. Et il y a pour cela un commentaire rabbinique assez intéressant du livre de l'Ecclésiaste au chapitre 7, verset 13, quand l'Ecclésiaste dit « regarde l'œuvre de Dieu et qui peut réparer ce qui a été courbé ou dégradé? Regarde l'œuvre de Dieu, qui peut réparer ce qui a été dégradé? Le Midrash, c'est-à-dire le commentaire juif de ce texte, qui date d'il y a 2000 ans donc, nous dit que met en scène l'homme qui parcourt le jardin d'Éden sous la conduite de Dieu, et Dieu lui dit « Voici mes œuvres, regarde comme elles sont belles et dignes d'éloge. Tout ce que j'ai créé, c'est pour toi que je l'ai créé. Mais, dit Dieu, sois attentif à ne pas dégrader ni détruire mon monde, car si tu le dégrades, il n'y aurait personne pour le restaurer derrière toi. » C'est-à-dire que l'homme est une créature, mais en même temps, il est la dernière des créatures. Il est en bout de chaîne, et c'est vrai qu'il domine sur la nature, sur les animaux et sur toute chose. Et donc, il a une responsabilité fondamentale, en ce sens que s'il lui dégrade, personne ne pourra réparer. Et donc, il a un rôle très particulier. Et je trouverais aussi, dans ce sens, une leçon dans une parabole bien compliquée de l'Évangile, qui est la parabole de l'intendant infidèle, quand un maître fait des reproches à son intendant parce qu'il dilapide ses biens, ses richesses injustes. Et après, le serviteur infidèle va dépenser aussi les biens injustes qui appartiennent au maître, mais pour remettre des dettes et pour se faire des amis, en quelque sorte. Et là, on a l'impression que le maître trouve que c'est une très bonne chose. C'est-à-dire que on peut considérer que ces richesses injustes de la parabole sont aussi les biens matériels que nous avons, ou notre vie terrestre, ou toutes les chances terrestres que nous avons, qui sont des richesses injustes. C'est-à-dire que Dieu n'aime pas qu'on dilapide, c'est-à-dire que l'on brûle pour rien les richesses, mais il nous autorise à les dépenser, même si elles ne nous appartiennent pas, il nous autorise à les dépenser tant que c'est pour remettre des peines ou pour soulager. Et donc Dieu aime la nature, mais il aime encore plus les hommes que la nature. Et je crois qu'il faut garder cela à l'idée. J'aime la nature, mais j'aime encore plus les hommes que la nature. Et donc cela devrait empêcher, je dirais, certains intégristes écologiques qui, lorsqu'ils voient un chasseur, disent « Ah, j'aurais aimé que le cerf tue le chasseur ». Ça, c'est impossible de dire une chose pareille. C'est, en disant cela, on ridiculise la pensée elle-même. C'est-à-dire que oui, Dieu aime la nature, mais aime encore plus l'homme, sinon on est dans la perversion. On peut, je dirais, ne pas aimer la chasse, mais on ne peut pas, je crois, penser une chose comme celle que je viens d'évoquer. Et finalement, je crois que cela nous enseigne que du mode de relation que nous avons à la nature, il s'ensuit toute une théologie et aussi toute une anthropologie, c'est-à-dire une conception de l'homme. Il y a une théologie qui nous enseigne que, en théologie, on nous apprend qu'il y a deux natures. Ça, c'est dans le Christ, en général, qu'on dit cela. Il y a en Christ une nature humaine, donc une nature biologique, une nature matérielle, et une nature spirituelle. De même, l'homme a un corps, et il a aussi un esprit et une âme. Et ce qui est montré dans la théologie comme le point culminant de la création, ce n'est pas le loup ou le tigre à dents de sabre, mais c'est le Christ. C'est-à-dire celui dont la théologie a dit, et là je crois que c'est assez juste, qu'il était l'union entre le matériel et le spirituel. Le Christ qui est l'union entre Dieu et l'homme. Le Christ qui est l'union entre le biologique et le divin, entre le visible et l'invisible. La mauvaise théologie concernant Jésus, c'est de privilégier l'une des deux natures. Et lorsque l'on dit « le Christ idéal de la création, c'est un pur esprit, c'est Dieu lui-même, c'est quelqu'un qui a échappé aux lois de la création et de la matière », non. Ça, c'est une théologie dangereuse parce qu'elle nie l'importance du corps et de la matière et de la nature. L'autre perversion, c'est de ne voir en Jésus qu'un homme très sympathique et réussi, parce qu'à ce moment-là, on nie la dimension spirituelle. Et on risque de penser, dans un cas comme dans l'autre, que les deux s'opposent. La théologie chrétienne a été très avisée, je crois, de dire que le Christ, point culminant de la création, c'est l'union du matériel et du spirituel sans confusion ni mélange, dit la confession de foi du symbole de Constantinople et de Chalcédoine. L'union harmonieuse des deux natures, faire en sorte que le matériel et le spirituel ne s'opposent pas, ne se détruisent pas, mais s'appuient l'un sur l'autre. Et c'est pourquoi aussi j'aime la manière avec laquelle Jésus guérit justement cet aveugle-né. C'est-à-dire comment est-ce qu'il montre que l'on peut perfectionner la nature en quelque sorte. Cet aveugle-né qui est une erreur de la nature, comment l'on peut perfectionner la nature. Alors il le soigne en crachant par terre et il mélange la salive avec de la terre, et pour faire un peu de boue. Je ne suis pas sûr que le médicament lui-même soit efficace, mais ce qui m'intéresse, c'est que la salive, c'est la parole, c'est ce que l'on use en parlant. Et la boue, c'est la terre, c'est la dimension matérielle. Et que donc la manière de perfectionner la création, cela consiste à faire un mélange harmonieux entre le bon sens terrestre et la parole divine et la parole spirituelle. Arriver à mélanger harmonieusement la dimension matérielle et spirituelle de notre vie. Arriver à faire une union hypostatique, je dirais, de la nature et de Dieu. Et c'est quand on arrive à faire cette union sans confusion ni mélange, c'est-à-dire sans prendre l'un pour l'autre ni l'autre pour l'un, et que l'on peut arriver à avoir une attention, je dirais, qui construit quelque chose d'une manière créative. Je crois que c'est là qu'il y a une particularité intéressante du rapport de l'homme à la nature dans la théologie chrétienne, qui est justement cette espèce de synergie qui peut arriver entre les deux, sans oublier ni l'un ni l'autre. Amen.